20 avril 2010. 11 ouvriers sont morts et 17 ont été grièvement blessés dans une explosion sur la plateforme de forage Deepwater Horizon, située à environ 80 km au large des côtes de la Louisiane. La plateforme a brûlé pendant 2 jours, avant de couler et de déclencher la plus grande marée noire de l'histoire des États-Unis, le pétrole et le gaz remontant du fond de la mer. Cette catastrophe s'est produite sur une plateforme de forage pour BP et a changé à jamais l'avenir de l'entreprise. L'image d'un brasier déchaîné sur l'océan est devenue associée au géant de l'énergie. BP, abréviation de British Petroleum, est l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières au monde. Basée à Londres, elle est un acteur majeur sur les marchés mondiaux de l'énergie depuis plus d'un siècle, alimentant des foyers, des voitures et parfois même des controverses. Mais en avril 2010, la catastrophe de Deepwater Horizon a marqué un tournant majeur. Depuis, BP a du mal à trouver sa place. Après la catastrophe, il n'y a eu qu'une série de promesses non tenues et un manque de direction. L'entreprise s'était engagée à passer au vert, mais elle a fait machine arrière. Son nouveau PDG a même admis que les attentes concernant la transition vers les énergies propres étaient peut-être, selon ses propres termes, mal placées. Pendant ce temps, le dernier trimestre de BP dresse un tableau sombre. Les bénéfices ont chuté de 48%. Son directeur de la stratégie a démissionné et le cours de son action est toujours à la traîne par rapport à ses concurrents. Ces revers ont laissé BP coincé entre son héritage dans les énergies fossiles et un avenir incertain. Bien que personne ne verse une larme pour une compagnie pétrolière géante, le cas de BP est une étude intéressante sur la façon dont des décisions imprudentes peuvent nuire à une entreprise et même coûter la vie à des innocents. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment l'une des compagnies pétrolières les plus puissantes au monde a-t-elle perdu le Nord? Les réponses vont bien au-delà d'une simple explosion. Des années de réduction des coûts, de mauvaise gestion, de remaniement de la direction et de réflexion à court terme ont peut-être façonné ce qui s'est passé en 2010. Mais même après que le pétrole a cessé de couler, les dégâts n'ont jamais vraiment cessé. Dans cet épisode, nous examinons le désastre d'entreprise qu'est BP. Vous regardez Fusion TV. Mais avant de commencer, quelques petites précisions. Les épisodes de Cold Fusion sont désormais disponibles sur Spotify, vous pouvez donc les regarder là-bas si vous préférez. 2010 a marqué un tournant dans l'histoire de BP, qui remonte à 1909. Au cœur de ce tournant se trouvait la Deepwater Horizon. Il s'agissait d'une gigantesque plateforme de forage offshore conçue pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Elle était capable d'atteindre des réservoirs enfouis à des milliers de pieds sous le plancher océanique. À l'époque, c'était l'une des plateformes les plus avancées au monde. La plateforme fonctionnait sur un site situé à près de 5000 pieds, soit 1,5 km sous la surface du golfe du Mexique. Elle se trouvait à environ 50 miles au large des côtes de la Louisiane. BP était le principal opérateur supervisant un puits en eau profonde connu sous le nom de Mondo. Il s'était associé à Transocean, qui possédait et exploitait la plateforme, et à Albert Burton, l'entrepreneur chargé de sceller le puits avec du ciment. En surface, tout semblait se dérouler comme prévu. Mais le 20 avril, tout cela allait changer. Le pétrole et le gaz avaient commencé à s'accumuler dans le puits, puis, sans prévenir, ils ont remonté une colonne de forage. Le gaz s'est enflammé et, instantanément, la plateforme a violemment explosé. 11 ouvriers ont été tués, 17 autres grièvement blessés et, 2 jours plus tard, la plateforme a coulé au fond de l'océan. Puis le pétrole a commencé à se répandre. Au cours des 87 jours suivants, environ 130 millions de gallons de pétrole, soit près de 200 piscines olympiques, se sont déversés dans le golfe du Mexique. Le pétrole s'est propagé rapidement, couvrant plus de 43 000 miles ou 110 000 km. C'est à peu près la taille de l'État de Virginie. Plus de 1300 mètres ou 2000 km de côte ont été contaminés dans 5 États. Le monde n'avait jamais connu une catastrophe écologique aussi grave et étendue. La faune de la région, des oiseaux aux tortues en passant par les coraux des grands fonds, les poissons et les mammifères marins, a été dévastée. Les scientifiques affirment que l'ampleur des dégâts n'a jamais été pleinement comprise. Aujourd'hui encore, plus d'une décennie plus tard, des projets de restauration à long terme sont toujours en cours. BP devrait continuer à verser 20 milliards de dollars de dommages et intérêts illégaux jusqu'en 2031. C'était vraiment dur de voir le pétrole se déverser dans le golfe. Je veux dire, nous parlons de plus d'un million de gallons par jour. À certains moments, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de fin en vue. J'ai vu de nombreuses zones du littoral recouvertes d'une épaisse couche de pétrole frais. Les vapeurs qui s'échappaient des marais étaient parfois accablantes. Rien qu'en regardant tout cela se dérouler pendant les 87 jours où le pétrole a continué de s'écouler dans le golfe, on pouvait voir cette nappe de pétrole flottante depuis l'espace tous les jours. Et on sait que le pétrole va rester là pendant longtemps. Mais ce n'est même pas le coût total qu'ils devront payer, mais nous y reviendrons plus tard. Outre les dommages environnementaux, l'impact plus large était systémique. L'ampleur des retombées était difficile à ignorer. Mais ce n'était pas un accident isolé. Il y avait de nombreux signes avant-coureurs. Les décisions qui ont conduit à ce moment avaient été prises des semaines, des mois, des années, voire des décennies avant l'explosion. Alors, que s'est-il passé exactement en coulisses ? Dans les années qui ont précédé l'explosion de Deepwater Horizon, BP était sous une pression intense. Les prix du pétrole grimpaient, ce qui était une bonne chose pour l'entreprise, mais les attentes augmentaient également. Les investisseurs voulaient des forages plus rapides, des rendements plus élevés et moins de retard. Après tout, maximiser la valeur actionnariale est tout ce qui compte de nos jours. Quelques années plus tôt, le PDG de BP de l'époque, John Browne, avait lancé des programmes agressifs de réduction des coûts, augmentation des bénéfices, certes, mais BP s'est retrouvé avec moins de moyens pour la sécurité et des infrastructures vieillissantes.
La pression pour réduire les coûts est venue du sommet de BP. Après le rachat d'Amo, le prédécesseur de Tony Hayward, Lord John Brown, a ordonné une réduction des coûts de 25% dans toute l'entreprise. Le message a été transmis à tous les échelons. J'ignore si l'on réalisait à quel point la philosophie de réduction des coûts était dévastatrice lorsqu'elle s'est concrétisée sur le terrain. Quand il y a un murmure au sommet de l'entreprise, cela devient comme un cri à la base. On commençait à entendre de plus en plus parler de faire avec ce qu'on a et d'essayer de le rendre plus efficace. Donc, on prenait du vieux matériel et on le poussait à fond. Si quelque chose n'explosait pas, c'était une bonne journée. Or, BP avait déjà un bilan de sécurité douteux. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la raffinerie de BP à Texas City. Depuis 1974, 23 personnes ont malheureusement perdu la vie dans 20 accidents distincts dans cette seule raffinerie. Trois d'entre eux ont eu lieu en 2004. Et la même année, en raison d'une réduction massive des coûts, la raffinerie était la plus rentable de BP avec plus d'un milliard de dollars de bénéfices. Et la sécurité chez BP avait déjà décliné depuis le début des années 90 parce que BP voulait réduire les coûts d'exploitation de 25%. Cela signifiait une réduction de la maintenance, moins de formation et une réduction du personnel de sécurité. La raffinerie du Texas s'est conformée aux mesures de réduction des coûts, et cela s'est vu. Un rapport d'inspection externe de l'installation datant de janvier 2005 a révélé des alarmes cassées, des tuyaux amincis, des morceaux de béton qui tombaient, des boulons qui tombaient, des cigarettes qui tombaient de 18 mètres et du personnel asphyxié par les vapeurs. Nous n'avons jamais vu un site où l'idée que je pourrais mourir aujourd'hui était aussi réelle. Fin de citation. Le rapport a également révélé que les employés étaient félicités et récompensés pour avoir respecté le budget, ce qui était la priorité. Malheureusement, tout cela allait culminer deux mois plus tard, en mars 2005. Une explosion massive dans la raffinerie allait tuer 15 employés. Comme vous le verrez plus tard, la réduction des coûts suivie d'une catastrophe était un modèle de comportement pour BP. Deux ans plus tard, les pipelines de BP en Alaska ont laissé fuir plus de 200 000 gallons de brut, ce qui a entraîné une amende de 25 millions de dollars. Ainsi, lorsque BP s'est concentré sur le forage en eau profonde dans le golfe du Mexique, ces mêmes pressions de réduction des coûts ont suivi. Et dès le début, le puits de forage Deepwater Horizon Mondo a été en difficulté. Les pannes d'équipement, les formations instables et les retards s'accumulaient. Le 20 avril, le forage avait déjà 45 jours de retard sur le calendrier et 58 millions de dollars de dépassement du budget. Cette pression se reflétait dans les décisions prises sur la plateforme. Beaucoup de choses ont mal tourné le 20 avril 2010. Mais je vais juste souligner quelques problèmes majeurs sans entrer dans les détails techniques. Tout d'abord, le travail de ciment. Alberton, l'entrepreneur, a utilisé un mélange de ciment plus léger que d'habitude. Il avait déjà échoué au test de stabilité et on savait qu'il était sujet aux fuites de gaz, mais BP, voyant le coût moins élevé, l'a quand même fait. Puis est venu le test de pression. C'était la dernière vérification pour s'assurer que le ciment avait bien scellé le puits. Les résultats étaient incohérents. Certaines mesures indiquaient une augmentation de la pression alors qu'elle n'aurait pas dû. Mais au lieu d'interrompre les opérations pour enquêter, BP s'est rendu compte que le temps, c'était de l'argent. Ils ont donc choisi d'interpréter les données comme étant normales et de continuer. Et puis est arrivé le raccourci qui a scellé le destin de la plateforme. BP a remplacé la boue de forage dense du puits par de l'eau de mer beaucoup plus légère avant d'installer le bouchon de ciment final. Cela a considérablement réduit la pression à l'intérieur du puits, facilitant ainsi la remontée du méthane. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le gaz a jailli du puits, a atteint le plancher de forage et s'est enflammé dans une explosion massive. Dans le chaos, l'équipage tenta d'activer le prétor anti-éruption. Il s'agit d'un empilement de vannes géantes conçu pour sceller un puits en cas d'urgence. Mais bien sûr, en raison d'un mauvais entretien, il a échoué. De plus, les enquêteurs ont découvert plus tard de multiples défauts de conception et une batterie déchargée dans un système de contrôle clé. Les choses avaient mal tourné depuis le début. Un ouvrier avait qualifié le projet de cauchemar, depuis de l'enfer. Des documents internes montrent que les ingénieurs de BP débattaient de la manière de réduire les coûts d'un projet qui dépassait déjà largement le budget. Tout indiquait que le puits qui avait explosé avait déjà coûté 10 millions de dollars de trop et que se faire prendre en train de faire un travail de cimentation corrective, puis y retourner et faire tout ce travail, cela leur coûtait 10 millions de dollars de plus et cela allait les impacter. Ils ont donc fait des économies sur le plan opérationnel en essayant de s'en sortir avec moins. BP a contourné un test clé appelé verrouillage de liaison de ciment. BP a économisé plus de 100 000 dollars. BP a réduit le nombre de centralisateurs utilisés pour sécuriser et boucher le puits. Cela a permis d'économiser plus d'un million de dollars. Donc, de loin, même si l'explosion pouvait ressembler à un accident soudain, la véritable histoire était en préparation depuis des années. Elle était motivée par une culture d'entreprise obsédée par la réduction des coûts, l'accélération des opérations et le repoussement des limites de la sécurité. Et ils sont allés trop loin. Cet état d'esprit risqué et horrible a finalement rattrapé BP. J'étais en fait au téléphone avec ma femme après avoir raccroché avec elle très peu de temps après. J'entends les moteurs vrombir, les lumières brillent. J'entends les alarmes. Je veux dire, elles sont à un état constant maintenant, c'est juste un bip bip, ça ne s'arrête pas. Mais même ça commence à être couvert par le bruit du moteur qui monte en régime et mes lumières deviennent si incroyablement brillantes qu'elles explosent physiquement. Je m'éloignais du bureau quand mon écran d'ordinateur a explosé. J'ai pensé alors qu'il se pouvait que nous ayons juste un moteur qui s'est emballé d'une manière ou d'une autre. Il s'est emballé. Et quand c'est arrivé, vous savez, quelque chose allait finir par se déchirer à l'intérieur et tout allait s'arrêter. Mais je savais qu'il y avait une énorme enquête qui se préparait et qu'il y aurait beaucoup de travail à faire pour comprendre tout ça. Alors, je me suis rendu à l'ECR afin d'aider l'ingénieur à comprendre ce qui se passait, voir si nous pouvions diagnostiquer ce qui s'était passé ou autre.
L'homme que vous venez d'entendre est Mike Williams. Il était le technicien en électronique en chef de la plateforme et un survivant. En juin 2010, les autorités fédérales ont lancé une enquête civile et pénale à grande échelle. Il a fallu près de 2 ans, des milliers de documents et des heures de témoignages pour reconstituer ce qui s'est réellement passé. Les accusations qui ont suivi étaient graves. Elles comprenaient des violations du Clean Water Act, une négligence grave et de fausses informations sur l'ampleur de la marée noire. Il ne faut pas oublier que 3 entreprises étaient à l'origine de la catastrophe. BP était l'exploitant et le propriétaire majoritaire. Transocean possédait et exploitait la plateforme, et Halliburton s'est occupé du travail de ciment. Avec autant de parties impliquées, le rejet des responsabilités était inévitable. Si chacun d'entre vous voulait bien se lever,
le président de BP America aurait peut-être assumé ses responsabilités aujourd'hui. Nous assumerons nos responsabilités.
Mais il n'allait pas endosser toute la responsabilité.
BP, en tant que locataire et exploitant du puits, a engagé Transocean pour forer ce puits.
Cela n'a pas plu au directeur de Transocean, assis juste à côté de lui. Il a signalé que l'explosion massive pouvait être due à une erreur commise par un sous-traitant, Halliburton.
Ces événements se sont produits alors que le processus de construction du puits était pratiquement terminé. Le dirigeant de Halliburton assis à côté de lui a pointé du doigt BP.
En 2014, un juge de district américain a finalement rendu une décision décisive. BP a été reconnu coupable d'imprudence. Le juge a attribué à l'entreprise la majeure partie de la responsabilité de la catastrophe. Cette décision signifiait que BP encourait les sanctions les plus sévères en vertu du Clean Water Act, avec des amendes pouvant atteindre 18 milliards de dollars. L'accent a également été mis sur la poursuite des personnes jugées responsables de décès évitables. 2 superviseurs de BP à bord de la plateforme, Bob Calazar et Donald Vidrine, ont été accusés d'homicide involontaire. Ils ont été accusés d'avoir ignoré les panneaux d'avertissement concernant les fuites de gaz et d'avoir laissé se poursuivre des travaux risqués.
Ces poursuites s'éloignent des impacts environnementaux et économiques de la marée noire de BP. Elles portent plutôt sur les décès évitables de 11 personnes. Bob Cousa supervisait la sécurité pour BP à bord de la plateforme Deepwater Horizon lorsque la plateforme a explosé. Je n'ai pas causé cette tragédie. Je suis innocent et j'ai placé ma confiance, ma réputation et mon avenir entre les mains du juge et du jury. Donald Vrin, un autre superviseur principal de BP à bord de la plateforme, a également plaidé non coupable. Ils étaient en charge d'un test qui a indiqué que du gaz combustible s'était infiltré dans le puits. L'acte d'accusation allègue que Cousa et Vadrin n'ont pas appelé les ingénieurs à terre pour discuter des relevés anormaux comme requis. Au lieu de cela, ils ont laissé les travaux sur le puits se poursuivre. Quelques heures plus tard, du gaz volatile est remonté dans le puits et a explosé. Je suis en colère que les deux cadres intermédiaires soient tenus responsables. L'avocat
de Kouza a affirmé qu'il était un bouc émissaire. Des survivants comme Steven Stone ont exprimé leur frustration que seuls les cadres intermédiaires aient été pris pour cible et que les supérieurs aient échappé à toute responsabilité. En 2015, cependant, les procureurs fédéraux ont abandonné les accusations d'homicide involontaire contre Bob et Donald. Aucun membre de la haute direction de BP n'a jamais été condamné au pénal. Certains ont fait l'objet d'une enquête. Quelques-uns ont été appelés à témoigner, mais au final, ils s'en sont tous sortis sans aucune peine de prison. Donc, oui, les hauts dirigeants s'en sont encore sortis, mais la lutte pour BP, l'entreprise elle-même, n'a jamais vraiment pris fin. Les poursuites judiciaires ont disparu, les gros titres ont continué. Mais l'entreprise elle-même ne s'est jamais vraiment remise. En avril 2025, l'entreprise a annoncé un bénéfice net de 1,38 milliard. Cela peut paraître énorme, mais il s'agit d'une forte baisse de 48% par rapport à l'année précédente. Le responsable de la stratégie de BP a démissionné, ce qui soulève de nombreuses questions sur la direction que prend l'entreprise. Pendant ce temps, depuis son entrée précoce dans les énergies renouvelables en 2020, le cours de l'action de l'entreprise a constamment sous-performé ses concurrents. Même après son retour au pétrole et au gaz, BP est toujours à la traîne derrière Shell et Exxon. De plus, la dette est un énorme problème pour l'entreprise. Officiellement, BP déclare devoir environ 27 milliards. Mais si l'on inclut les obligations hybrides, les obligations de location et les passifs liés au déversement d'hydrocarbures, le chiffre réel se rapproche de 65 milliards. Les paris passés de l'entreprise en Russie n'ont pas aidé non plus. Avant la guerre en Ukraine, BP détenait près de 20% des parts de Rosneft, un géant pétrolier contrôlé par l'État russe. Lorsque le conflit a éclaté, BP a procédé à une dépréciation de 25 milliards de dollars et a annoncé sa sortie. Sous la direction du nouveau PDG, BP revoit sa transition écologique. Les dépenses consacrées aux énergies renouvelables ont été réduites de 5 milliards. Les investissements dans le pétrole et le gaz ont bondi de 10 milliards par an. Certains y voient une correction nécessaire, tandis que d'autres y voient un pas en arrière. BP, quant à lui, y voit une réinitialisation fondamentale. L'objectif est de vendre 20 milliards de dollars d'actifs, de réduire la dette et de revenir à ce qu'ils appellent leur cœur de métier. C'est une réinitialisation audacieuse, mais à en juger par les chiffres, regagner la confiance des investisseurs ne va pas être facile. Leur image publique est mauvaise, même pour une compagnie pétrolière. Il semble que dans le cas de BP, c'est l'exemple le plus extrême que nous ayons jamais vu de la priorité donnée au profit aux personnes. À l'exception de Boeing, bien sûr, la tension entre profit et responsabilité est au cœur du combat de BP. Mais il n'y a pas moyen d'y échapper. Tout au long de leur histoire, ils ont été extrêmement négligents, recherchant les profits au détriment de la sécurité et même de vies humaines. Alors, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que BP peut vraiment se réinventer, ou vont-ils continuer à payer le prix de ce désastre ? BP a peut-être été négligent dans ses pratiques commerciales, mais vous n'avez pas à être négligent dans la manière dont vous consommez les informations. Il est de plus en plus difficile de découvrir la vérité dans une actualité. Le sponsor d'aujourd'hui, Grand News, vous êtes donc dans cette tâche. Grand News vous offre différents points de vue sur l'actualité d'une manière objective et basée sur des données. En prenant l'exemple de l'histoire de la valorisation de Nvidia dépassant les 4000 milliards de dollars, plus de 500 organes de presse ont couvert cette histoire. Leur graphique de distribution biaisée me montre les tendances politiques de ces organes de presse, et je peux même obtenir un résumé de la manière dont l'actualité est présentée. Les médias de gauche considèrent la capitalisation boursière de 4000 milliards de dollars de Nvidia comme un symbole de l'innovation américaine et de la révolution de l'IA. La droite, en revanche, souligne que le succès de Nvidia est la preuve que la politique de Trump porte ses fruits. Examinons quelques sources et voyons comment la question est présentée. À gauche, Infobae déclare: les marchés montent malgré les tensions tarifaires, alors que Nvidia entre dans l'histoire en dépassant les 4000 milliards de dollars. Le Sun US indique que Nvidia, géant de l'IA, a une capitalisation boursière de plus de 4000 milliards de dollars, surpassant le PIB du Royaume-Uni. En faisant défiler la page, je peux comparer chaque article sur le sujet avec des balises pratiques qui m'indiquent le contexte de la source, comme son caractère factuel et son propriétaire. Sur le côté droit de l'écran, nous pouvons voir la distribution des biais. 26% à gauche, 57% au centre et 18% à droite. Je trouve que les informations de terrain sont un outil précieux pour mes recherches, en particulier sur les sujets les plus controversés. Il est beaucoup plus facile d'avoir une compréhension globale de n'importe quel sujet plutôt que de chercher manuellement des points de vue opposés à contraster. Le fil d'actualité de Grand News est également excellent. Il vous montre des histoires qui sont sous-reportées par un côté du spectre politique. Par exemple, si vous êtes de gauche, vous avez peut-être manqué l'histoire d'un représentant républicain affirmant que les dossiers Epstein ont été détruits. Grand News est un outil fantastique pour obtenir des points de vue internationaux, passer au crible la désinformation et identifier les préjugés des médias. Ils fournissent tous les outils dont vous avez besoin pour développer votre esprit critique. Aujourd'hui, Ground News propose une réduction de 40% qui s'accompagne d'une fonctionnalité appelée My News Bias, qui vous permet même de vérifier l'évolution de vos habitudes de visionnage des actualités au fil du temps. Pour commencer, rendez-vous sur Ground News, Cold Fusion. Merci. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout pour moi. Je m'appelle Dogo et vous avez regardé Cold Fusion. Je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut les gars. Passez une bonne soirée. Oh, ce que vous étiez, je ne sais pas. Cold Fusion. C'est une nouvelle façon de penser.